Merci JR, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, membres de la presse, fidèles auditeurs de Radio Okapi, bonjour et bienvenue à la conférence hebdomadaire des Nations Unies que nous animons aujourd'hui à partir de Kinshasa avec Florence Marshall, coordinatrice du groupe de communication des Nations Unies, représentant les piliers de développement et humanitaire, et à partir de Goma avec le major Jean-Marie Gonsalves, porte-parole militaire par intérim, qui sera accompagné du général Jean Bayou, commandant en second de la force de la MONUSCO, qui répondra aux questions d'ordre militaire. Aujourd'hui, nous avons avec nous un invité spécial que nous avons l'honneur et le privilège de vous présenter. Il s'agit de Monsieur Mamadou Pété Diallo de la Guinée, le représentant spécial adjoint à la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, mais qui est aussi coordonnateur résident et coordonnateur humanitaire des Nations Unies et représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, casquette qu'il portera aujourd'hui au cours de cette conférence de presse. Monsieur Diallo a été nommé le 11 mai 2015 par le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon et succède à Monsieur Moustapha Soumaré du Mali, qui a achevé son mandat au mois de mars et a pris fonction le 12 juillet et est arrivé dans la mission le 6 août 2015. Avant sa nomination, M. Mamadou Diallo a assumé les fonctions de directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale du programme commun des Nations Unies sur le VIH-SIDA, ONU-SIDA. Jusqu'en 2012, M. Diallo était coordonnateur résident et coordonnateur humanitaire des Nations Unies et représentant résident du PNUD à Asmara, en Érythrée. Il a été représentant du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA au Mali de 2005 à 2009 et en Sierra Leone de 2001 à 2005. Il apporte à ses nouvelles fonctions de nombreuses années d'expérience au sein du système des Nations Unies, dont plus de deux décennies à des postes de plus en plus élevés de responsabilité et de direction dans les opérations de développement et humanitaire au niveau national, régional et international. Une fiche biographique vous sera remise à la fin de cette conférence de presse. Au sommaire de ce rendez-vous hebdomadaire de tous les mercredis, nous vous parlerons aujourd'hui des activités des composantes de la MONUSCO, mais nous évoquerons aussi les activités menées par les agences et programmes des Nations Unies au cours de la semaine écoulée. Et enfin, nous vous ferons le point de la situation sécuritaire dans les différentes provinces de la RDC. Sans transition, nous commençons par les activités des composantes de la MONUSCO, police MONUSCO. Les sessions de recyclage organisées par la police MONUSCO au profit des agents de la police nationale congolaise se poursuivent à Bukavu, Goma et Bunia. Les enseignements qui portent entre autres sur le maintien et le rétablissement de l'ordre public, gestes et techniques professionnelles d'intervention et droits de l'homme sont dispensés dans le strict respect des droits humains et des normes internationales et visent à une meilleure sécurisation du processus électoral. Durant la semaine, les équipes conjointes pour la mise en œuvre de la stratégie opérationnelle intégrée de lutte contre l'insécurité à Beni et Otcha, Solive en sigle, ont poursuivi leur patrouille régulière de sécurisation. Au total, 167 appels ont été reçus sur le numéro vert pour 15 interventions qui ont donné lieu à 12 arrestations pour diverses infractions de droit commun. Section protection de l'enfant. Au cours de la semaine écoulée, 45 enfants dont 6 filles ont été victimes de violences liées au conflit en province orientale, au nord et au sud Kivu. 38 enfants ont été séparés des groupes armés, 6 filles ont été violées par les parties au conflit et un garçon de 12 ans a été blessé par des éléments armés non identifiés. Le groupe de travail technique du sud Kivu sur les enfants et les conflits armés salue la nomination d'un officier de la police nationale congolaise travaillant dans l'unité spéciale chargée de la protection des enfants et la prévention de la violence sexuelle. Cette nomination facilitera la lutte contre l'impunité des auteurs de violations contre les enfants, sans oublier la coopération entre la section de protection de l'enfant de la MONUSCO et la police nationale congolaise dans la province. La section protection de l'enfant encourage le gouvernement à continuer dans la poursuite des auteurs de toutes les violations graves des droits de l'enfant. Information sur le projet à impact rapide. Le samedi 15 août dernier, les casques bleus du contingent népalais de la MONUSCO ont inauguré le centre de formation pour la paix et le développement de la ville de Beni. Ce centre a été réhabilité dans le cadre des activités des casques bleus en faveur des populations civiles pour un montant d'environ 10 000 dollars américains. L'objectif de cette réhabilitation est de permettre l'encadrement des enfants de la rue, leur démobilisation, la prise en charge pendant les vacances. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du maire de la ville de Beni, du commandant du contingent des casques bleus népalais de Beni, du chef du bureau de la MONUSCO à Beni. Au cours de cette cérémonie, Le chef du bureau de la MONUSCO à Bénin a rappelé le rôle de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo qui est le rétablissement de la paix et la stabilité. Monsieur Jacob Mougeni a également insisté sur le rôle que doit jouer la population locale pour aider à la restauration de la paix. Le maire de la Béli, par contre, a remercié la MONUSCO pour le financement de ce projet et a émis le vœu de voir ce centre de formation être un modèle de formation et d'occupation des jeunes désœuvrés à Béli. Selon le commandant du contingent des casse-bleus népalais de Béni, 270 personnes bénéficient actuellement d'une formation en anglais, informatique, coupe et couture dans ce centre. Rappelons que le centre de formation pour la paix et le développement de la ville de Béni a été construit en 2000 par les casques bleus indiens de la MONUSCO. Voilà donc tout pour les informations concernant la MONUSCO. Tout de suite, je passe la parole à Madame Florence Marshall, qui nous fera l'économie des activités menées par l'équipe de pays des Nations Unies. Florence, bonjour, la parole est à vous.
Bonjour Félix, bonjour à tous. À l'occasion de la journée mondiale de l'aide humanitaire, dont nous reparlerons tout à l'heure avec notre invité spécial, le bureau de la coordination des affaires humanitaires, OCHA, et le groupe d'information humanitaire organisent ce mercredi une exposition photo à Goma, au niveau de la tribune ONC. L'occasion de découvrir en images les activités des acteurs humanitaires dans l'Est de la RDC, vous êtes tous les bienvenus. Et merci de noter que d'autres activités sont organisées aujourd'hui et dans les prochains jours à Bukavu, Bunia, Kinshasa et Lubumbashi. L'UNICEF nous signale que la campagne d'inscription en première année primaire pour les enfants âgés de 6 et 7 ans a démarré lundi dernier. Ce sont plus de 2 millions d'enfants qui sont concernés. Il est important de rappeler que pour la sixième année consécutive, une politique de gratuité de l'enseignement primaire est mise en œuvre dans les établissements publics. De plus, en vue de favoriser la rétention des enfants nouvellement inscrits, l'UNICEF a prévu de distribuer des fournitures scolaires à plus d'1 400 000 enfants sur tout le territoire. Le programme d'appui au secteur de la microfinance, PASMIF, qui est financé et mis en œuvre conjointement par le Programme des Nations Unies pour le Développement et l'UNCDF, travaille actuellement sur l'offre de produits financiers adaptés au secteur agricole. Après Kinshasa la semaine dernière, une formation sur le financement du secteur agricole destinée aux personnes travaillant dans le secteur de la microfinance se tient actuellement à Bukavu. L'objectif est de promouvoir des produits de microfinance qui répondent aux besoins des petits agriculteurs. L'Organisation internationale pour les migrations, OIM, vient de lancer 3 nouveaux projets en soutien aux personnes déplacées internes et retournées du Nord Kivu. Les activités planifiées dans le cadre de ces projets concernent la gestion de l'information des personnes déplacées, la gestion et la coordination des sites de déplacement, la recherche de solutions durables pour les personnes et familles vulnérables en situation de déplacement, ainsi que la protection et la sécurité alimentaire des personnes déplacées internes et des retournées dans le territoire de Massissi. Sur les 57 sites de déplacement regroupant 192 000 déplacés au Nord Kivu, 27 sont sous la responsabilité de l'OIM. C'est vendredi que la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale, la CPI, tiendra une audience afin de réexaminer la peine de Thomas Lubanga. En effet, selon le traité de Rome, traité fondateur de la CPI, lorsqu'une personne a purgé les 2/3 de sa peine, la Cour doit réexaminer la peine pour déterminer s'il y a lieu de la réduire. Monsieur Lubanga a été condamné à une peine de 14 ans d'emprisonnement pour crime de guerre consistant à l'enrôlement, conscription et utilisation d'enfants de moins de 15 ans dans un conflit armé.
Merci Florence. Sans tarder, nous rendons à Goma pour retrouver le major Jean-Marie Gonsalves qui nous brossera le tableau sécuritaire dans toutes les provinces de la RDC. Major, la parole est à vous.
Merci Félix. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Durant la semaine écoulée, la situation sécuritaire dans les provinces situées dans la partie occidentale de la République démocratique du Congo, y compris Kinshasa, a été jugée calme et sous contrôle en province orientale. La pression militaire exercée par les troupes des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et la force de la MONUSCO reste maintenue sur les éléments de l'armée de résistance du Seigneur LRA dans les districts de Haut et de Bawili. Dans le territoire de Patwasende, situé à 324 km de Kisangani, les factions dissidentes du groupe Mai Mai, Yabili et Simba, sous les ordres du général Mando, s'affrontent en vue d'occuper les localités situées entre Patwasende et Lubutu. Les troupes des forces tunisiennes et congolaises déployées dans les régions concernées sont en alerte maximale. En Ituri, l'armée congolaise poursuit avec le soutien de la force de la MONUSCO les opérations militaires visant à mettre un terme aux activités négatives des miliciens du Front de résistance patriotique de l'Ituri, FRPI. Au nord Kivu, la situation sécuritaire demeure volatile. Dans le territoire de Beni, l'armée congolaise continue avec le soutien de la force de la MONUSCO de mener des opérations d'ici visant à l'éradication totale de l'Alliance des forces démocratiques ADF. Aussi, Kivu, l'armée congolaise, soutenue par la force de la MONUSCO, poursuit les opérations contre les éléments des groupes armés actifs dans les différents territoires de cette province, au Katanga. Un calme relatif a été observé dans la région affectée par le conflit interethnique entre les communautés Luba et Pygmé. Au chapitre des redditions dans la province, pendant la période sous examen, 43 miliciens du groupe Mai Mai Pygmé se sont rendus au village Majengo, situé à 25 km au sud-est de Manolo. La situation sécuritaire est calme dans le secteur 2. Enfin, la force de la MONUSCO a mené 1187 patrouilles armées, dont 205 nocturnes et fourni 44 escortes pendant la période sous examen. Merci Félix.
Merci, Major Gonsalves. Et tout de suite, retour ici à Kinshasa pour retrouver notre invité de ce jour. Monsieur Diallo, bonjour.
Bonjour, Monsieur Bass.
Nous pensons que pour votre première apparition publique, vous avez certainement un message à délivrer aussi bien aux autorités congolaises, au peuple congolais qu'à nos amis journalistes ici présents. La parole est à vous.
Chers amis, chers frères, chères sœurs, je suis le docteur Mamadou Diallo, je suis le représentant spécial adjoint du secrétaire général dans la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo et j'assume concomitamment les fonctions de coordinateur humanitaire, de coordinateur résident des Nations Unies et de représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement. Je me réjouis de l'opportunité que m'offre cette conférence de presse pour vous rencontrer tous et toutes afin de pouvoir me présenter, avoir l'opportunité de commencer à vous connaître et établir avec vous ce que je pense être et je souhaite être un partenariat fécond dans les mois et dans les années à venir en accompagnement des activités de développement, des activités humanitaires et des activités des Nations Unies en général en République démocratique du Congo en soutien aux efforts du gouvernement du Congo et en soutien aux Congolaises et aux Congolais qui aspirent à une meilleure vie. Je voudrais commencer mon propos en partageant avec vous ma fierté, le privilège que je ressens d'avoir été choisi par le secrétaire général des Nations Unies pour servir les Nations Unies en République démocratique du Congo. C'est pour moi un retour à la maison, parce que ce pays que j'ai eu le privilège de connaître au début de ma carrière internationale, que j'ai aimé, que j'ai respecté et dans lequel j'ai construit des relations humaines qui durent jusqu'à maintenant, est un pays qui m'est très cher. Donc je viens ici avec l'ambition et la conviction sincère de m'investir sincèrement, de façon dévouée et de façon désintéressée auprès de mes sœurs et de mes frères congolais et congolaises pour pouvoir apporter ma modeste contribution à l'amélioration des conditions de vie des Congolaises et des Congolais en soutien aux efforts du gouvernement du Congo. Cela dit, mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui en un jour qui est spécial, c'est celui de la Journée internationale de l'action humanitaire, une journée qui a commencé il y a plusieurs années sur un événement tragique et triste qui continue de nous affecter tous, à savoir une journée qui a été décidée suite à l'attentat en Irak qui a coûté la vie à 22 de nos collègues et de nos amis et de nos collaborateurs qui était en service commandé dans le cadre de l'action des Nations Unies et de l'action du monde humanitaire en soutien au peuple frère d'Irak, martyrisé par des années de conflit. Cette journée tragique, le début tragique de cette journée, s'est transformé aujourd'hui en un parcours d'espoir. Parce que la journée que nous célébrons aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous tous de réaffirmer notre engagement à tendre la main à ceux et à celles de nos frères et sœurs qui, pour des raisons diverses, quelquefois au-delà de leur contrôle, les rendent vulnérables, eux-mêmes, les personnes qui leur sont chères, leurs familles et les communautés dans lesquelles ils vivent. Leur tendre la main pour leur offrir de l'espoir, leur tendre la main pour les aider à reconstruire leur vie, à reconstruire leur famille et leur communauté, afin de pouvoir offrir à leurs enfants un espoir, un avenir dans le contexte d'un Congo uni, pacifié et stable, en paix et prospère. Je prends mes fonctions dans un contexte important en République démocratique du Congo, dans un contexte que j'appelle un tournant. Après des années d'efforts, de sacrifices, le gouvernement de la République du Congo, les Congolais et les Congolais, en partenariat avec les Nations Unies, sont arrivés à un moment où ils ont significativement réduit la menace que constituent pour la paix et la stabilité de ce pays, que constituent les activités pour la stabilité et la prospérité de ce pays, les activités, dis-je, des forces négatives et autres groupes armés qui continuent de perturber la quiétude et de mettre en danger la vie, la sécurité, la prospérité de nos frères et sœurs qui vivent dans les provinces orientales de la République démocratique du Congo. Après donc ces améliorations, nous sommes en droit de croire que le Congo s'engage résolument dans la voie du développement afin de réussir le pari de l'émergence et de réaliser l'ambition nationale qu'est la révolution de la modernité. Cela étant dit, cela ne devrait pas nous permettre aussi d'oublier que, en dépit de ces progrès qui sont remarquables, il y a encore des millions, sinon des centaines de milliers de Congolaises et de Congolais qui vivent encore en situation de précarité, pour des raisons et pour des actions qui ne sont pas nécessairement de leur faute. Il me plaît de rappeler ici qu'au moment où nous parlons, on a environ 1,5 million de personnes qui sont déplacées à l'intérieur des frontières de la République démocratique du Congo. Nous avons également, vous l'avez appris, vous de la presse, le retour progressif de certains Congolais et de certaines Congolaises qui avaient quitté le territoire national pour diverses raisons, qui sont en train d'être rapatriés et réintégrés à leur communauté d'origine. Il y a également, et c'est triste à dire, des Congolaises et des Congolais qui avaient établi racines dans des pays voisins du Congo, qui avaient trouvé du travail, qui avaient quelquefois fondé des familles et commencé des affaires, qui ont dû quitter précipitamment ces terres qu'ils considéraient comme étant des terres d'accueil et ont été rapatriés, quelquefois de force, à la République démocratique du Congo et pour lesquels le gouvernement du Congo et ses partenaires ont tendu la main afin de favoriser leur réinsertion dans le tissu social national. Cette journée, dis-je, qui a commencé sur un ton triste, est devenue la journée de l'espoir. Et ici, il me plaît de rappeler que au moment où nous allons résolument vers la fin et la lutte contre les problèmes de sécurité résiduels à l'est de la République du Congo, nous ne devons pas ignorer que même dans la partie congolaise où les gens vivent en paix, en sécurité, en stabilité, il y a encore des besoins humanitaires. Exemple frappant, il y a eu, il y a quelques semaines, un tremblement de terre à l'est de la République du Congo qui, heureusement, n'a pas entraîné d'énormes dégâts et de pertes en vies humaines. Mais c'est le genre de catastrophe naturelle qui est au-delà du contrôle de chacun de nous qui peut arriver et qui peut rendre des Congolaises et des Congolais vulnérables et auxquels on doit être préparé. Il me plaît de rappeler ici aussi que quand nous parlons de la journée de l'action humanitaire, c'est l'occasion aussi de célébrer les héros que nous ne connaissons pas, que nous ne voyons jamais au journal de 20 heures de la télévision nationale, que sont les agents humanitaires, ceux qui travaillent dans des conditions difficiles, dans des contrées éloignées, où il n'y a jamais une caméra de télévision ou un micro d'un journal, mais qui, au jour le jour, travaillent, tendent la main, essaient d'aider ceux et celles de nos frères et sœurs qui sont en difficulté. À eux, nous dédions aussi cette journée et nous reconnaissons leur contribution et nous saluons leur courage. Ce sont eux les véritables héros de l'action humanitaire. Il me plaît aussi de rappeler que le premier acteur humanitaire en République démocratique du Congo, ce sont les familles congolaises, ce sont les communautés congolaises. Parce que, dans la plupart des cas, dans toutes les personnes déplacées, la majorité des personnes déplacées ne sont pas nécessairement dans des camps de déplacés. La majorité des personnes réfugiées en République démocratique du Congo ne sont pas dans des camps de réfugiés. Ils vivent avec les familles congolaises. Donc ce sont les hommes et les femmes. Ce sont les familles, ce sont les communautés congolaises qui sont les premiers acteurs de cette chaîne de solidarité qui permet d'apporter de l'aide, de l'espoir et du réconfort à ceux et celles qui souffrent. Donc il faut saluer ici aussi les familles congolaises, saluer les communautés congolaises et saluer le gouvernement de la République du Congo qui lui aussi s'est investi en dépit de toutes les priorités auxquelles il doit faire face pour pouvoir aider aussi à la prise en charge de ces personnes. Il me plaît de rappeler ici que la relation entre le monde humanitaire et le gouvernement de la République du Congo se sont énormément améliorés avec la mise en place d'un cadre de concertation au cours des dernières années qui est une plateforme d'échange et de réflexion stratégique qui permet au gouvernement du Congo d'indiquer à la communauté humanitaire ses orientations et ses ambitions dans le domaine de la prise en charge des personnes vulnérables et qui permet aussi au monde humanitaire de pouvoir communiquer avec le gouvernement pour exprimer un peu le contenu des programmes et solliciter l'appui et le soutien constant du gouvernement dans le cadre de ses activités. Je termine mon propos, mesdames et messieurs, en vous disant que cette journée est aussi inscrite sous le sceau de la réaction rapide. Je voulais vous rappeler qu'au moment où nous parlons, il y a plus de 20 000 de nos enfants et de nos frères et sœurs dans l'ancienne province du Katanga, qui a été découpée en quatre provinces, le Tanganyika, le Haut-Lomami, le Lualaba et le Haut-Katanga, qui est en train de subir une épidémie de rougeole, et on a déjà dénombré plus de 20 000 cas de rougeole avec plus de 300 cas de décès. Au moment où nous parlons, il me plaît de vous dire que, en ma qualité de coordinateur humanitaire, j'ai approuvé un financement de 2,4 millions de dollars et que j'ai rendu disponible aux acteurs humanitaires et aux acteurs gouvernementaux afin de pouvoir apporter une réponse rapide et un soutien à nos frères et sœurs dans la province, dans l'ancienne province du Katanga, afin de faire face à cette épidémie. Dans le même ordre d'idée, il y a encore quelques jours, en tenant compte des effets néfastes du conflit entre les communautés Twa et Luba dans la partie nord de l'ex-province du Katanga, en particulier dans les territoires de Nyunzu et de Kalemie, j'ai aussi approuvé un financement de 2 millions de dollars du Fonds commun humanitaire destiné uniquement à apporter un soutien à ces communautés au triple plan de la construction et de l'engagement entre les différentes communautés pour sécuriser un espace de vie en commun, appuyer les populations et les familles qui ont souffert de déplacement à cause du conflit et créer les conditions d'un dialogue harmonieux entre les communautés Twa et Luba afin de pouvoir restaurer la vie en commun et la vie communautaire qu'ils ont menée pendant des siècles. Ils ont toujours vécu ensemble en paix et en harmonie et nous cherchons à recréer ça à travers le programme d'engagement communautaire. Voilà un peu, mesdames et messieurs, sans vous prendre trop de temps, quelques-uns des propos liminaires que je voulais partager avec vous dans le cadre de cette conférence de presse et me réjouir encore de l'opportunité que m'offre cette conférence de presse pour vous connaître, me faire connaître de vous et éventuellement commencer le long cheminement que je vais faire avec vous au cours des prochains mois et des prochaines années dans le cadre d'un partenariat fécond qui nous permettra d'utiliser un peu les canons et les voies que vous êtes en tant que professionnels des médias pour nous permettre de passer le message au niveau des communautés, au niveau des provinces, pour qu'ils sachent qu'est-ce que c'est que l'action humanitaire et pourquoi nous tous nous devons nous mobiliser pour tendre la main à nos frères et sœurs qui sont en souffrance. Je vous remercie.
Merci Monsieur Diallo pour ces remarques introductives, pleines d'espoir, mais aussi qui rendent un vibrant hommage à tous les acteurs humanitaires, notamment les populations locales, mais aussi les efforts consentis par le gouvernement congolais pour rendre